écoutez, c'est que vous n'êtes pas seul.
Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Canu, à Radio Rebelle de Lyon, eh oui, vous êtes dans l'émission Échec et Glutamate. Eh oui, alors on commence cette émission fort bien, car c'est en ce joli mois de mai qu'Échec et Glutamate poursuit son aventure radiophonique, avec pour thème aujourd'hui les oiseaux. Étrange comme le toucan, inquiétante comme un vautour, space comme un pigeon, cette émission aura du plomb dans l'aile si vos chroniqueurs habituels sont partis nichés sur les caissons sonores le temps d'une après-midi. Mais malheureusement pour vous, non, mais heureusement pour vous, pardon, oh le lapsus, ils sont bien là et ils sont prêts à roucouler dans les micros de Radio Canu offrant un ramage digne d'un rossignol.
C'est beau.
C'est pas moi, c'est Voltaire, je crois. Ça va ?
Ça va et toi ? T'as l'air en forme ?
Bah ouais. Écoute, je crois qu'il se passe quelque chose d'assez particulier en ce moment à Lyon, donc du coup je suis heureux. Voilà.
Ouais.
Voilà.
Mais quoi ? Qu'est-ce qui se passe à Lyon en ce moment ?
Bah, il y a les rencontres de l'édition des mecs perdus à la bibliothèque Pardieu. Non, parce qu'il y a une nuit sonore et forcément, voilà, on voit des gens déambuler avec des lunettes bizarres, cheloues dans les,
rues.
Et
drôles
du coup, on sent que. Les drôles d'oiseaux, voilà, on sent qu'il y a les nuits sonores. Voilà. C'est pour ça, alors je suis heureux. Et vous, comment allez-vous, Soso ?
Ah, moi je vais très bien. J'espère qu'ils vont mixer des sons d'oiseaux aux nuits sonores.
D'accord. Qui feront. Tu connais la musique du Poussin Pillou ?
Ah non ?
Ah, bah je te ferai écouter ça alors après.
Merci.
Si t'es sage. Prof Tob ?
Bah moi ça va, j'espère que ça passera bien aussi, qu'ils feront pas trop de zèle.
Oh, elle était réchauffée, ça va.
Ah, c'était mauvais,
T'en as rêvé la nuit, je suis sûr.
Mais dis-moi, Sims, c'était ton intro, ça ?
Oui.
C'est tout ?
Ouais, c'est tout. Voilà.
Tu fais pas un petit billet politique, d'habitude ?
Bah si. Oh,
voilà, ah, je me doutais bien.
Ça tombe bien.
Tiens, tu me lances, c'est gentil. Et oui, alors il y a.
C'était complètement improvisé.
Oui, comme d'habitude, hein, on est tout
bien
à fait.
Bien amené, surtout.
Hein. Ça sentait pas le coup fourré. Hein. Alors, il y a des sujets qui méritent d'être traités par mes soins. Oui, j'avoue que plusieurs d'entre eux m'ont interpellé ces derniers temps, tels que la sortie attendue du dernier livre de Frédéric Pochtron, Frigide Barjot ou le massacre de l'alcool, un livre étonnant où l'on apprend que l'alcool serait mauvais pour la santé, et un vrai choc pour l'équipe. Il y a aussi des sujets de saison comme vie et croissance d'une asperge dans le parc régional du Pilat. Sujet qui pourrait prendre une heure d'émission, tant cette petite tige aux mille saveurs renferme bien des mystères. Je vais donc vous parler aujourd'hui d'un sujet pompeux au premier abord, mais qui mérite une attention toute particulière. Cela s'appelle la stratégie évolutivement stable. Alors accrochez-vous, parce que c'est un peu lent. Hein. En théorie des jeux, en psychologie comportementale et en psychologie évolutionniste, une stratégie évolutivement stable, alors pour m'arranger un peu, on va appeler ça une SES, hein, d'accord, est un cas particulier d'équilibre de Nash. Alors le Nash, qu'est-ce que c'est ? Dans la théorie de l'équilibre des jeux, l'équilibre de Nash, nommé par John Forbes Nash, est un concept de solution dans lequel l'ensemble des choix faits par plusieurs joueurs, connaissant leur stratégie réciproque, est devenu stable du fait qu'aucun ne peut modifier seul sa stratégie sans affaiblir sa position personnelle. Alors, dans une grande population de joueurs se rencontrant aléatoirement, plusieurs stratégies peuvent coexister, chacune possédant une fréquence d'équilibre propre. Est-ce que vous me suivez jusque-là ?
Ouais.
Tout à fait.
Merci. Développé en 1973 par John Maynard Smith et George Robert Price, remarquez mon anglais quand même, c'est extraordinaire, hein. Pour expliquer l'évolution des comportements sociaux, cette théorie est maintenant largement utilisée en écologie comportementale, en sociobiologie, en économie, en psychologie évolutionniste, en anthropologie biosociale, en sciences politiques et en philosophie, rien que ça. Alors une SES, je rappelle qu'une SES est une stratégie évolutivement stable, c'est pour ça qu'on va dire SES parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à le dire, est liée donc à la notion d'invasion d'une population de joueurs qui appliquent la stratégie X. Donc ils voient arriver dans leur milieu un joueur qui applique la stratégie Y. Ce joueur est envahissant si sa stratégie Y lui permet d'être plus performant que la moyenne des X. En considérant que les joueurs sont capables de le remarquer et de changer de stratégie, cela pousserait la population indigène à opter pour la stratégie Y. Si, comme c'est le cas souvent, le rendement de la stratégie Y est décroissant avec le nombre d'adhérents, alors on aboutit à un rapport équilibré entre les deux types de comportements. Une stratégie est évolutivement stable s'il n'existe pas de stratégie Y qui puisse l'envahir. Un des exemples les plus connus concerne celui d'un conflit opposant deux individus pour l'obtention d'une ressource. Entendu au sens large, il peut s'agir d'un point d'eau, de la nourriture, ou même d'une femelle pour la reproduction, ou alors, des fois, ça arrivait avec Prof Tom, une bière. Hein. On considère deux stratégies possibles. La stratégie colombe, et c'est là où on est dans le thème, hein, où l'individu refuse tout conflit et de ce fait s'enfuit dès qu'il est agressé. Ou alors la stratégie faucon, le méchant, qui agresse systématiquement son compétiteur pour obtenir la ressource. Alors petit 1, quand deux colombes se rencontrent, suivez-moi bien, c'est important. La première arrivée remporte les gains sans conflit. Normal, elles sont cool, voilà. Quand une colombe rencontre un faucon, lui, le faucon est méchant et il gagne systématiquement, sans conflit. Quand deux faucons se rencontrent, il y a conflit et là, c'est grosse baston. Et chaque compétiteur a une chance sur deux de gagner la ressource, mais aussi de perdre et de subir des dégâts. Alors, poursuivons. On peut montrer par des calculs simples que ces deux stratégies peuvent coexister dans des proportions qui dépendront de l'ampleur du gain et de la gravité des dégâts. On peut montrer aussi, que si une stratégie dite bourgeoise apparaît, et là ça va faire plaisir à Radio Canu, qui consiste à refuser le conflit lorsque l'animal n'est pas sur son territoire, mais à toujours combattre lorsqu'il est sur le sien, alors cette stratégie s'imposera toujours. Elle s'étendra alors à tous les individus de la population. On parle de SES pur. Alors, parlons d'un sujet en particulier. Faisons un jeu. Cela s'appelle le dilemme du prisonnier. C'est un truc qui a été énoncé en 1950 par Albert Wilson Tucker. Alors, il y a un W, alors je dis Wilson, mais je ne suis pas sûr que ça soit Albert Wilson Tucker. Ça peut être William, ça peut être Will, ça peut être... je ne sais pas. À Princeton, caractérise en théorie des jeux une situation où deux joueurs auraient intérêt à coopérer, mais où de fortes incitations peuvent convaincre un joueur rationnel de trahir l'autre lorsque le jeu n'est joué qu'une fois. Pourtant, si les deux joueurs trahissent, tous deux sont perdants. Le dilemme du prisonnier est souvent évoqué dans des domaines comme l'économie, la biologie, la politique internationale, la psychologie et même l'émergence de règles morales dans des communautés. Alors quel est le principe ? Tucker, donc, ce fameux Tucker, suppose deux prisonniers, complices d'un crime, retenus dans des cellules séparées et qui ne peuvent communiquer. L'autorité pénitentiaire offre à chacun à des prisonniers donc les choix suivants. Si un des deux prisonniers dénonce l'autre, il est remis en liberté alors que le second obtient la peine maximale, 10 ans. Ça fait beaucoup quand même, hein. Si les deux se dénoncent entre eux, ils seront condamnés à une peine plus légère, 5 ans. Si les deux refusent de se dénoncer, la peine sera minimale de 6 mois, faute d'éléments au dossier. Ce problème modélise bien les questions de politique tarifaire. Alors on va parler un peu d'économie. Le concurrent qui baisse ses prix gagne des parts de marché et peut ainsi augmenter ses ventes et accroître éventuellement son bénéfice. Mais si son concurrent principal en fait autant, les deux peuvent y perdre. Ce jeu ne conduit pas spontanément à un état où on ne pourrait améliorer le bien-être d'un joueur sans détériorer celui d'un autre. À l'équilibre, chacun des prisonniers choisira probablement de faire défaut alors qu'il gagnerait à coopérer. Chacun, donc, est fortement incité à tricher, ce qui constitue le cœur du dilemme. Eh oui. Si le jeu était répété, chaque joueur pourrait user de représailles envers l'autre joueur pour son absence de coopération, ou même simplement minimiser sa perte maximale en trahissant les fois suivantes. L'incitation à tricher, devient alors inférieure à la menace de punition, ce qui introduit donc la possibilité de coopérer. La fin ne justifie plus les moyens. Le dilemme du prisonnier est utilisé en économie, étudié en mathématiques, utile parfois aux psychologues, aux biologistes des écosystèmes et spécialistes de sciences politiques. Le paradigme correspondant est également mentionné en philosophie, Platon d'ailleurs en a parlé, et dans le domaine des sciences cognitives. Enfin, vous vous demandez certainement pourquoi je vous emmerde avec tous ces concepts un peu chelous. Eh bien, tout simplement parce que je voulais vous démontrer par ces faits scientifiques que nous sommes dépendants les uns des autres et que la coopération est de fait inévitable. La paix est donc salvatrice. Le rejet de l'autre, prôné par certains courants politiques, conduira à l'effondrement de notre modèle démocratique et nous reconduira vers l'horreur. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. This moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
Jingle,
bam, c'est bon.
Jingle,
et bam. Bien endroit cette fois-ci.
Petit jingle. Alors on va poursuivre donc cette émission qui a pour thème aujourd'hui les oiseaux, et donc je suis en compagnie de charmantes personnes, hein, parce que c'est pas souvent le cas.
Merci.
Donc il y a Prof Top qui est là, et puis donc il y a Soso qui est là. Non, c'est pas vrai.
Comment ça, on n'est pas charmant, c'est pas vrai?
Non, mais si. Bon.
Alors on est toujours là en plus.
On va poursuivre cette émission avec encore un petit morceau, puis après on va attaquer avec la chronique. Prof Top.
Je voulais juste revenir, tu parlais de la petite tige du Pila.
Oui,
et du tout de suite, tu t'arrêtes là-dessus.
Oui, mais ça me fait penser à Captain Beefsteak, en fait.
Voilà. Bravo.
Et comme c'est son anniversaire aujourd'hui, voilà, petite tige du Pila, on pense à toi.
Petite tige, voilà.
Joyeux anniversaire, Captain Beefsteak. On aurait aimé que tu sois des nôtres, mais bon.
Voilà.
On comprend.
Il a préféré faire le pantouflard chez lui.
Il a fait sa tête d'autruche.
Voilà,
c'est la politique de l'autruche.
Ouais, exactement.
Oui.
Bah, allez, Juliette Gréco, un petit poisson.
Qu'est-ce que c'est?
Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand quand on est dans l'eau. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est né d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut, perdu au creux des nuages, on regarde en bas pour voir son amour qui nage. Et l'on voudrait bien changer au cours du voyage ses ailes en nageoire, les arbres en plongeoire, le ciel en baignoire. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est né d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est né d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Quand on est dans l'eau, on veut que vienne l'orage qui apporterait du ciel bien plus qu'un message et pourrait d'un coup changer au cours du voyage des plumes en écailles, des ailes en chandail et des algues en paille. Un petit poisson, un petit oiseau, semé d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, semé d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau, semé d'amour tendre. Mais comment s'y prendre?
Un jour que le ciel était bien cotonneux, une jeune hirondelle voulut se poser sur un nuage bleu. Elle s'égara un peu dans la barbe des cieux, notre belle hirondelle, mais peu impressionnée par ses murs de laine à l'aspect duveteux, elle étendit ses ailes au plus profond des cieux, planant, planant, planant jusqu'à présupposer sur un nuage bleu se reposer un peu. En faisant de son mieux, notre belle hirondelle, qui avait la nausée, parcourant à grand-peine les chemins vaporeux, rencontre des nuages, moqueurs à qui mieux mieux, tentant de la convaincre, à force de causer, que des nuages bleus, il y en a bien peu. Des larmes plein les yeux, notre belle hirondelle, au cœur ménopausé, se sentant une naine dans ce monde nuageux, mandostratus captieux, et dans le blanc des yeux, si l'un d'eux ne pouvait se métamorphoser en un nuage bleu. Mais aucun ne le peut, lui répond le plus vieux. Belle et folle hirondelle, sans vouloir t'imposer, je te le dis sans haine, et je ne suis pas vieux jeu, mais qu'il fasse soleil ou sale temps pluvieux, nous ne pourrons jamais nous anamorphoser en un nuage bleu, car cela ne se peut. Conclut-il en non-lieu. Notre belle hirondelle, les yeux pleins de rosée, va consulter, amen, ses amis capricieux, se sentant pousser en elle des ailes de 7 lieues. Faisant un trou d'azur, leur dit le plus osé, et un nuage bleu, elle verra si elle veut. Et d'un verbe copieux pour la belle hirondelle, ils se mettent à proser, des avés, des amens, invoquant quelques dieux. Et après ce rituel, il est vrai, un brin pieux s'écartent les uns des autres, offrant décomposé un beau trou de ciel bleu. Notre belle hirondelle se met à composer un Stairway to Heaven et vole vers d'autres cieux. Mm-hmm.
m'appelle Antoine Duval. Je suis un Français moyen. J'ai 40 ans, je mesure 1m70, je pèse 80 kilos. Je suis fonctionnaire, je suis marié, j'ai 2 enfants. J'habite un appartement de 3 pièces que j'ai obtenu grâce au crédit foncier. J'ai souscrit une police d'assurance vie. Je possède la télévision équipée 2e chaîne. J'ai un compteur bleu et tous mes meubles portent l'estampille NF. Je n'aime que la cuisine au beurre. Je mange du pain d'épices. Quand je fais cuire des nouilles à la semoule de blé dur, je les goûte. Je les goûte souvent. Je bois de la chicorée. Je fais régulièrement la cure orange. Je bois du jus de raisin. Je bois du jus de pomme. Je fais la pause café. Je mange du fromage en portions. Enfin, je fais tout ce que la télévision me conseille de faire. Et je m'emmerde.
De retour sur les ondes rebelles de Radio Canu. La radio la plus rebelle de toutes les radios. Et vous êtes en compagnie d'une belle équipe, hein, Échec et Glutamate. J'espère que vous suivez tout à l'heure parce que c'est assez fourni comme émission, donc on va écouter plein de choses. Et tes morceaux, c'était quoi, Prof Tob?
Sous ma chronique, le CD a bugué d'ailleurs pendant, je pense que ça s'est entendu, c'était un morceau de Maurice Ravel qui s'appelle Oiseau Triste. Et juste après, on a écouté Bird of Paradise de Charlie Parker. Voilà.
Et on a écouté donc en petite blague notre ami Jean-Yann.
Notre ami Jean-Yann qu'on a reconnu.
Paix à son âme. On va continuer donc poursuivre cette émission. Mais avant, je vais poser une question à Soso. Ça va, Soso?
Bah oui.
Parfait, alors on continue. On va écouter quelque chose qui nous fait vibrer, nous qui avons 30 ans.
T'es sûr que ça va, hein?
Oui. Si ça va pas, tu le dis. Hein.
J'ose pas vous en parler.
Mais avec cette musique, tout ira mieux, t'inquiète pas. que c'est mignon. Donc c'était, vous avez forcément reconnu, la compagnie créole, ça fait rire les oiseaux. Et là, on est dans le thème.
Oui, je suis pas obligé de préciser à chaque fois qu'on est dans le thème.
Non, mais c'est important parce que des fois on dit qu'on est. Comment on dit ?
D'ailleurs, t'as pensé à prendre un morceau d'Edith Piaf ?
Oui.
D'accord.
Il est parfait.
On est parfait. Venons-en à notre petit reportage qui, je dois le dire, ça faisait longtemps que ce petit reportage n'avait pas été mis sur ces ondes. Hein. Alors, on va. Parler
d'un rapport avec les oiseaux ?
Oui.
Ok, bon, ça va, tu peux y aller.
Et je peux même te dire le titre, ça s'appelle Canary Voice.
Ça promet.
Ah oui, mais attention, c'est du lourd. Bienvenue dans le sous-sol, je veux dire dans le sud-ouest, tu sais, ouais, Patrick Sébastien, non. Bienvenue dans le sous-sol de Lucien Choisy-le-Roi, en région parisienne. Ici, une dizaine de passionnés organisent un concours de chant où 150 concurrents s'affrontent dans des cages. Pour distinguer l'oiseau rare, suivez les bons avis du juge Daniel Gros. Le CD Le Chant du Canary Ars est produit par le Club Technique Français du Ars. Alors, ce reportage a été fait par notre ami Charlie Marcellet et la réalisation Antonio Fischetti. Alors, j'ai pas préparé le truc. Je suis en retard. Je suis désolé, j'ai pas envoyé le truc à temps. Non.
Alors, si vous voulez nous contacter, vous pouvez bien sûr nous joindre sur notre Facebook à taper Échec et Glutamate si vous avez des commentaires à faire, des idées de thèmes à suggérer. Si vous voulez vous bourrer la gueule avec nous un soir ou aller courir la gueuse.
Ou faire des blagues de droite aussi.
On est très preneurs.
Voilà. Allez, c'est l'heure du reportage. Vous allez vous régaler. À tout à l'heure.
Ça, j'aime bien cette flûte tendue. Pou, pou, pou. Oh, putain. Ça c'est beau, ça. Celui-là est bon. Il n'y a pas de défaut. Je m'appelle Daniel Gros. Je suis juge Canary Ars national.
Le canari de chant Ars est un oiseau de culture d'origine allemande qui a vu le jour à la suite de sélections successives dans les monts du Harz, notamment dans la ville de Saint-Andréasberg.
Parce que dans le massif du Harz, il y avait beaucoup de mines. Donc les mineurs le descendaient dans des petites cages. Et puis si le canari tombait au fond de la cage, il remontait parce que pour ne pas être asphyxié. Mais quand ils remontaient, ils se sont aperçus que les oiseaux qui n'avaient pas vu le jour toute la journée commençaient à chanter. Donc ils ont commencé à créer des concours comme ça.
Les associations de canaris du Harz organise chaque année un concours de chant où officient des juges diplômés sur le plan national ou mondial.
Salut les enfants.
Bonjour.
Bonjour. Salut Laurent.
Encore un éleveur.
Bonjour.
Bonjour.
D'ailleurs, t'en amènes combien ?
16.
Oh, c'est bon ça. C'est bien, hein ?
Ouais.
16 oiseaux. Ouais.
J'ai mis la totalité de mes mains, là.
Là, vous avez les gens d'Auchel qui doivent venir avec peut-être 90 oiseaux. Puis encore un gars de l'Ouest qui doit venir avec une dizaine d'oiseaux. Ah, puis Michel Sanguinette aussi, avec 10 oiseaux. Peut-être en avoir 100, 150 peut-être.
Ça a la particularité par contre, le Harz, de chanter le bec fermé. Quoi. Et c'est pour ça que ça ne fait pas de bruit. Quoi.
Le chant du canari Harz est composé d'une série de sons et d'harmonies aux tonalités différentes. La teintée. On peut entendre li, 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 li. Teintée simple. La roulée profonde. Elle est sans conteste le plus estimé de tous les tours.
Donc si c'est uniforme, oh, c'est joli, mais c'est beaucoup plus joli quand il fait oh, il monte et il descend. Normalement, ça doit être boum, boum, boum. Il y va pas, alors. Hein. Attendez, c'est un peu nasillère, non? C'est pas ça? Par contre, quand il commence à grogner et s'enrouler, c'est beau.
La teinte est roulée. La grognée. La roulée profonde. La teinte est profonde.
Il y a plein de trucs à savoir. Hein. Dès qu'il y a un bruit quelconque, bah, il copie. Hein. Une porte qui grinche tout le temps, là, bah, ça fait... Bah, il essaie de le copier, hein. Il copie pareil. Hein. Et puis voilà, après c'est au concours, à la fin de son chant, il fait... Et bah, c'est mort, voilà.
Très belle grognée, bien ronde.
J'ai toujours fait des oiseaux. Bon, disons que j'habitais en face d'un café dans lequel il y avait une arrière-salle et on faisait des concours d'oiseaux. Bon, quand j'avais 10-12 ans, j'allais voir les oiseaux, puis j'ai eu envie de commencer, quoi. J'en ai pris un, deux, et puis après ça s'est enchaîné. On achète un oiseau par-ci, un oiseau par-là, on les mélange, on trouve un tour de chant, on essaye d'améliorer tout. Disons qu'on a le sentiment qu'on les écoute, mais on les fabrique soi-même.
La teinte est profonde. Il s'agit d'une succession de sons séparés par un intervalle extrêmement réduit et régulier. Belle teinte est profonde. Un autre type de teinte est profonde.
On essaye d'attraper le chant, fixer le chant, on appelle ça fixer le chant, en faisant des mariages un petit peu consanguins. Vous mettez le fils sur la mère, le père sur la fille, ils vont s'accoupler. Mais personnellement, je trouve que les meilleurs accouplements, c'est mettre sur l'oncle ou sur la tante ou cousin-cousine. Faut pas aller trop loin. Bon, de temps en temps... Si vous achetez un oiseau exceptionnel quelque part, de temps en temps, vous faites un tour sur les filles, mais une fois, hein, puis après, il faut élargir. Hein, faut pas revenir toujours dessus, parce qu'après, ça ne marche plus. Là.
Plus on écoute d'oiseaux, mieux on est. Hein. Ça s'explique pas. J'adore ce chant, c'est tout. C'est
253, hein,
c'est
ça.
C'est vrai que c'est... 50, oui. C'est beau. Je trouve ça beau, moi.
Attends.
C'est quoi ta passion, ces oiseaux? Bon. C'est vrai que c'est pas commun. Hein. Même ma femme me dit, mais je comprends pas pourquoi. Bah oui, mais c'est comme ça, ça s'explique pas. J'aime les oiseaux, Hein.
Le tour d'eau.
Blou, 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 blou.
Le glou.
Glou, glou, glou. Ça fait un petit peu le bruit de l'eau qu'on déverse, ouais.
Glou et flûte gloussée.
À peine jugeable quand ils sont très mauvais, pas de force, aphone quand ils chantent pas, chant enroué, glou sans valeur, manque de structure.
C'est pas normal, hein, c'est normal.
Ça, c'est un bon oiseau. Vous entendez la profondeur du chant. Profond, c'est pas toujours grave, hein. C'est pas toujours la même chose. Quand vous entendez Mireille Mathieu, elle chante pas grave, mais son chant est très profond quand même. Hein.
429, 62, 7. Bon, bah pour l'instant, le meilleur, c'est ça, celui-là, 356.
Mon plus grand plaisir, c'est de les écouter chez moi.
66, 91.
J'ai une petite pièce comme ça chez moi pour les écouter, tout. Je vais de temps en temps, et puis j'écoute le matin. Bon, je vais une heure, hein, j'écoute, tout. Et souvent, il y a mon copain Georges qui habite à côté, il vient. Enfin, je me plains pas, hein. J'ai quand même déjà été 7 fois champion de France et tout. Je vous assure, les coupes, hein, je les rends au concours, je les donne à mon club. Ou alors, quand elles commencent à se piqueter, la dernière fois, j'en ai mis 2 grands sacs poubelles à la benne. Hein.
Voilà,
remercier chaleureusement nos amis d'Arte Radio qui ont conçu ce reportage intitulé Canary Voice. Donc ces gens s'appellent Charlie Marcellet et Antonio Ficchetti. Et maintenant c'est l'heure de la chronique de Soso. À toi de jouer, Soso.
Quand nous avons décidé du thème de l'émission de cette semaine, à savoir les oiseaux, j'ai tout de suite pensé à Hitchcock, à Andrew Bird, même à Pierre Perret. Mais je trouvais que le sujet m'échappait, voire s'envolait. En effet, je me suis rendu compte, plongeant dans mes souvenirs et ceux de mon entourage, que chacun avait un rapport à cet animal beaucoup moins aérien, à ce qu'il paraît. En écoutant, questionnant autour de moi, un lien unique et extrêmement hétéroclite se tissait entre l'animal et l'homme. Bien plus que l'anecdote du quidam qui reçoit un guano sur l'épaule, on connaît tous quelqu'un à qui c'est arrivé, les récits que je glanais se sont avérés drôles, émouvants, parfois angoissants. Cette chronique est d'ailleurs dédicacée à Camille, mon amie citadine, qui a la phobie des pigeons, et qui doit constamment changer d'itinéraire afin de ne pas en croiser un. Difficile d'expliquer ses retards fréquents au travail sans passer pour une allumée. J'ai donc tenté de garder le meilleur de ma petite enquête pour vous, et viens ici vous rendre ces petits récits personnels, espérant raviver vos propres anecdotes avec les oiseaux. Je commence donc par le commencement. L'enfance et les oiseaux, avec un jeu d'un ami réunionnais, qui m'expliquait sa chasse d'un volatile extrêmement vif et qui s'apparenterait à une sorte de canari. L'oiseau rentrait, sans quelconque appât, dans de grands poulaillers et se retrouvait vite piégé. Là, une horde de gamins se ruait sur eux, finissant de les paniquer tout à fait, les perturbant tellement qu'ils étaient incapables de retrouver la sortie. Les terreurs s'emparaient donc aisément de leur proie, attachaient rapidement une feuille de bananier à leurs pattes et promenaient ainsi leur ballon improvisé. Mais gare au petit bec rageur qui savait aisément piquer les petits chapardeurs jusqu'à ce qu'ils lâchent prise. Un rapport beaucoup moins agressif me liait personnellement aux chouettes étant gamine. Mon père m'apprit à les appeler, avec force patience, au moyen de mon souffle et de mes mains. Il s'agissait de créer une cavité hermétique entre mes paumes et souffler afin de reproduire le chant de la chouette. À la tombée de la nuit, cela finissait toujours par en attirer une qui virevoltait longuement au-dessus de nous, sans se lasser. Longtemps, je l'entendais appeler sa congénère, en vain, alors que j'étais déjà couchée. J'avais alors presque de la peine de l'avoir entraînée dans cette illusion. Un autre volatile me déchirait également le cœur durant mon enfance, sans que j'en lui sois d'ailleurs pour quel que soit. Je possédais une poule nommée Petite Poule Grise. Oui, elle était grise, tout à fait sociable, et toute la famille l'adorait. Lorsque nous rentrions de l'école, elle se ruait sur nous en caquetant, cherchant la chaleur de nos caresses, comme un chien. Cette poule, n'avait qu'une passion dans sa vie, voler. Et pour une poule, et pas une moule, c'est très compliqué. Mais elle y mettait tant de cœur. Prenant son élan sur une rampe d'escalier en pierre, elle sautait et tentait de planer durant une ou deux secondes et allait finalement s'écraser lamentablement sur un tas de sable situé en face. Loin d'être découragée, elle recommençait ce stratagème, inlassablement. J'éprouvais alors beaucoup, beaucoup de peine pour ma petite poule grise, mais j'étais fière de son côté rocky. Elle ne lâchait rien. En grandissant, le rapport avec l'oiseau devenait plus tendu. Je parlais donc des guano. En témoigne l'agression physique d'une amie qui s'est pris un volatile en plein vol sur le front, en pleine rue. Sûrement une attaque suicide. Je pense également à l'histoire effrayante de Prof Tob et du goéland coincé sur son balcon. Il a dû, seul et au moyen d'un ingénieux système fabriqué par ses soins et très très compliqué, offrir un moyen de sortie pour la grosse bête. La taille de son bec devait être vertigineuse, car elle revient souvent dans le récit de Prof Tob. Cette anecdote finit de placer notre ami parmi les héros sans peur et extrêmement malins et dégourdis. Mais Tob n'est pas en reste. Captain Beefsteak a aussi son récit. Un peu moins héroïque, il est vrai, mais tout aussi traumatisant pour l'intéressé. Tout à fait qu'il était par les prémices d'un été chaud et ensoleillé, il ne vit pas cette jolie faisane déboussolée se jeter sous les roues de sa 106 Blue Jean. Effondré d'avoir percuté la dame, il tremblotait de tous ses membres, se demandant s'il n'allait pas se promettre, de ne plus jamais toucher un volant de sa vie. C'est alors que la demoiselle de l'époque, qui occupait ses pensées, lui hurla « Stop !» Elle descendit en trombe et ramassa le cadavre. Horrifié, Captain Beefsteak comprit que sa compagne avait trouvé le repas adéquat de ce soir. affreux. Ce n'est pas le seul qui ôta la vie. Un ami proche, amateur de 4x4, tua pour sa part un pélican. Oui, cet énorme animal. Pensant qu'il avait le temps de s'envoler avant son arrivée, il ne leva pas le pied. Et il eut tort. Un pélican, c'est lourd, et ça met du temps à gagner les cieux. Et il dut partir à toute berzingue, car tuer un pélican aux États-Unis, ça coûte cher. Mais assez de morts. Je voudrais terminer sur ma mère, oui, encore elle, qui, lorsque je lui parle du thème prochain de l'émission, se met, d'un seul coup, à réciter le poème de Copé, de tête, à la terrasse d'un café. Est-ce que les oiseaux se cachent pour mourir ? Le soir, au coin du feu, j'ai pensé bien des fois à la mort d'un oiseau, quelque part dans les bois. Pendant les tristes jours de l'hiver monotone, les pauvres nids déserts, les nids qu'on abandonne, se balancent au vent sur un ciel gris de fer. Oh, comme les oiseaux doivent mourir l'hiver. Pourtant, lorsque viendra le temps des violettes, nous ne trouverons pas leurs délicats squelettes dans le gazon d'avril où nous irons courir. Est-ce que les oiseaux se cachent pour mourir ?
La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux. Et les doigts s'égainant de l'artiste, ça lui rentre dans la peau par le bas, pardon. Elle a envie de chanter cette physique. Tout son être étendu, son soufflet suspendu. C'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est triste. Au coin de la rue là-bas, son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. La java qu'elle fredonne tout bas, elle revoit son accordéoniste. Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux. Et les doigts s'égainant de l'artiste, ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de pleurer cette physique. Tout son être étendu, son soufflet suspendu. C'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java. Elle a fermé les yeux, les doigts secs et nerveux.
Arrêtez la musique.
Voilà, voilà, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine, pas de sang, pas de haine. Avec une absence, moi je ne serai pas là, puisque je serai loin, quelque part, voilà.
Tu nous feras part de ton mystérieux voyage.
Oui. Voilà, je ferai un petit reportage caché.
Pour ceux qui ont suivi l'émission, il va rejoindre Yannick.
Voilà. Donc, une émission intitulée...
Le divan. Donc,
le divan, ce sera juste Soso et Prof Top qui présenteront. Voilà, ou d'autres, hein, si entre-temps des gens se rajoutent à nous.
Donc si vous avez besoin de consulter un psy, rendez-vous la semaine prochaine sur les ondes
ou si
de
vous
Radio
avez besoin
Canu,
d'une promotion canapé.
Dès 17h. Voilà.
C'est toi qui géreras.
Ouais, je gère, ça va être un beau bordel.
Encore quelques mots de fin, peut-être Prof Tob.
Donc on se quitte en écoutant un morceau encore de Charlie Parker qui s'appelle Ornithologie, car pour ceux qui ne savaient pas, le surnom de Charlie Parker était Bird, tellement son jeu de saxophone était volubile.
Waouh, dis donc.
Voilà, et donc on vous laisse avec Méga Combi. D'accord. Ça va apporter une petite touche culturelle dans cette émission. Ouais. Merci.
Non, c'est très bien Charlie Parker. On va se dire au revoir. Nous, on va se dire rendez-vous dans deux semaines. Mais vous pouvez réécouter nos émissions grâce au blog de Radio Canu, Échec et Glutamate. Et réécouter donc nos vieilles émissions. Et on va laisser surtout les micros à Méga Combi. À la semaine prochaine. Salut, ciao.
Salut, ciao.